Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 9 septembre 2020. Eh bien, finalement, le mois de septembre est peut-être vraiment un mois pourri. Visiblement, alors que 2020 semblait être l'année pour ne pas faire comme d'habitude, on a quand même réussi à se faire défoncer en règle au mois de septembre. Alors oui, il reste 3 semaines avant octobre, octobre qui n'est pas plus connu, qui n'est pas non plus connu pour être un mois génialissime au passage. Et le mois de septembre peut encore nous surprendre, mais le fait que tout le monde est en train de se tirer de la tech à la vitesse grand V pourrait laisser des traces et des plaies que l'on ne pourra pas panser aussi facilement que ça. Quoique, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, eh ben on a bien raison de penser ce qu'on pense. La techno et le Nasdaq se sont donc fait allumer hier encore. Après le long week-end du Labor Day et le fait que l'on avait eu l'air d'avoir un peu exorcisé l'histoire de la baleine japonaise, on pouvait raisonnablement espérer que le marché allait se reprendre, tout au moins se stabiliser. Hier matin, à la même heure, les futurs étaient en hausse et on avait le secret espoir de voir le marché remonter et de se stabiliser. Tout cru, patate crue, ce n'était qu'un piège fomenté par quelques traders qui faisaient mumuse avec les futurs américains un peu trop tôt dans la nuit pour que ça soit valable. On a cru au rebond trop tôt et c'était sans compter la propension du Nasdaq à battre des records. Oui, car l'indice technologique nous avait si l'indice technologique nous avait habitués à pulvériser les records d'altitude ces derniers mois, il semblait tout aussi enclin à le faire à la baisse. Ce qu'il y a de bien à Wall Street, c'est qu'il y a toujours des records à battre. La plus forte baisse en 2 heures, le recovery le plus rapide de l'histoire, le profit-taking qui tire plus vite que son ombre, le bull market le plus discret de l'histoire ou le délit d'initié le plus discret de ces 3 dernières semaines. Hier, c'était un autre titre que le Nasdaq remportait, celui de la capacité à rentrer en terrain de correction le plus rapidement dans l'histoire du Nasdaq lui-même. En effet, la littérature boursière qu'on ne lit jamais, sauf quand ça fait du bien d'en parler au bistrot quand le marché se pète la gueule, il est dit que pour entrer en phase de correction, il faut avoir perdu plus de 10% par rapport au dernier point haut. Par exemple, pour le Nasdaq 100, il fallait avoir perdu 10% ou plus depuis les 12 420 affichés mercredi dernier à la clôture. Ce qui voulait dire que sous les 11 178, nous étions en zone de correction. Alors je vous laisse vérifier le prix de clôture du Nasdaq hier soir. Il aura donc fallu 3 jours pour que le Nasdaq se fasse défoncer de 10%, et c'est le nouveau record officiel. Jamais dans l'histoire du Nasdaq, nous n'étions rentrés aussi vite dans une zone de correction. Ça paraît fou parce que de mémoire, j'ai quand même le sentiment que je n'ai pas encore cicatrisé des conséquences de certaines journées de baisse lors de l'explosion de la bulle Internet en mars 2000. Mais avec l'âge, il se peut que je défaille et que mes souvenirs vacillent. Enfin, quoi qu'il en soit, le Nasdaq a battu un record et il n'y a pas que lui qui est entré en phase de correction, puisqu'autant vous dire que les poids lourds de la tech, dans leur ensemble, se font laminer propre en ordre, puisque depuis quelque temps, il n'y a plus que ça qui compte et que lorsque l'effet balancier fait son œuvre, il n'y a pas de prisonnier. Et la claque est générale, c'est un peu Ivan Drago dans Rocky IV au début du combat, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, Rocky, il gagne. Si on doit faire le bilan, on notera donc que Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Netflix, Zoom, Nvidia, AMD et bien sûr même le SOX, le Semiconductor Index, sont tous en phase de correction dorénavant. Bon, bien sûr, il y en a un qui fait toujours mieux que les autres parce que c'est mal de ne pas faire parler de soi, c'est Tesla. Tesla a fait beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup mieux puisque le roi de la voiture électrique, l'empereur de la batterie et le champion du monde de la tuile qui fait l'énergie est carrément rentré en bear market en l'espace de 5 séances. Il aura fallu 2 jours pour être en correction et 5 jours pour aller en bear market. Le bear market étant défini par une baisse de 20% depuis les plus hauts. Et comme Tesla a perdu 30% en 5 séances, on est largement, mais alors largement dedans. La question étant, mais quand faudra-t-il racheter? Puisque n'oublions pas quand même qu'à la fin, c'est les boules qui gagnent. Mais retenons quand même que Tesla est dans son second bear market de l'année, ça s'invente pas, hein. D'ailleurs, il y a quand même eu une lueur d'espoir pendant que l'on massacrait la technologie Peloton. Qui aurait cru que c'est un fabricant de vélos d'appartement qui aurait fait briller l'espoir hier? Hier, la société a annoncé qu'ils baissaient les prix de leurs vélos, ce qui apparemment était une bonne nouvelle, à moins que ce soit le fait qu'ils aient annoncé qu'ils allaient offrir un tapis de course à bas prix. Toujours est-il que l'action s'est encore envolée et terminée en hausse de 6%, pas si loin que ça des plus hauts historiques. Reste à voir comment les publications des chiffres trimestriels qui sont prévus pour le 10 septembre seront pris par le marché qui a placé ses attentes très très haut dans la stratosphère puisque visiblement la totalité des USA ont l'intention de passer le reste de l'année le cul posé sur un home trainer à regarder les autres pédaler sur un écran. Si la durée d'utilisation du vélo d'appartement est proportionnelle à la vitesse à laquelle il devient un porte-vêtement équipé d'un écran tactile, je ne suis pas super convaincu que ça soit l'avenir. À moins que l'avenir soit à rester enfermé chez soi sans voir personne, ce qui n'est pas loin de se produire finalement. Dans les autres bonnes nouvelles de la séance, on notera que Boeing a découvert un nouveau problème dans ses 787. Ah, pas les 737 Max qui volent plus, hein, les 787 qui volent encore. Enfin, pour ceux qui ont encore l'envie de rentrer dans une boîte de conserve avec un masque après s'être fait fouiller 24 fois, dont une coloscopie, toujours est-il que la nouvelle n'était pas bonne et le titre s'est fait allumer comme s'il vendait aussi des Tesla. Pourtant, c'est juste le stabilisateur horizontal de vol qui déconne. Je n'ai pas la moindre idée de l'utilité de ce truc, si ce n'est que ça doit servir à stabiliser l'avion quand il vole horizontalement. Mais disons que si, comme Boeing le disent, ce n'est pas très grave, pourquoi ils le mettent dans l'avion? C'est encore une de ces options qui coûte hyper cher sur le catalogue et qui sert à rien. Bref, le premier jour de la semaine aurait été pourri pour les Américains et nous en Europe, on s'est dit que c'était quand même mieux quand ils sont pas là et quand Trump ne fait pas de commentaires négatifs sur sa relation avec la Chine et sur le fait qu'il veut absolument réduire l'interdépendance des USA avec la Chine. Oui, parce qu'il paraît que c'est à cause de ça que tout est parti en vrille hier. Pas du tout à cause du fait que les book options sont dans les choux, ni parce que plus personne ne sait quoi penser des positions délirantes en call techno dans un certain fonds japonais. Non, à cause de Trump. D'ailleurs, à propos du Japon, la transition est toute faite. Le Nikkei est en baisse de 1,4%. SoftBank recule de plus de 4% parce qu'on ne sait jamais. Hein. Les deux autres indices baissent de 1% chacun. L'ambiance est morose ce matin et c'est sans compter que mon ami le pétrole se fait démonter de près de 10% en 48 heures puisque plus personne, plus jamais, ne fera le plein ou portera des vêtements en nylon et que l'économie vient subitement de s'arrêter très exactement à l'instant même où Tesla passait la barre des moins 30%. L'or n'est plus une valeur refuge, mais une valeur qui ne fout strictement rien depuis 3 semaines. À croire que les traders sur l'or ont quitté le pays pour aller tamiser les rivières du Grand Ouest américain, parce qu'il paraît qu'une pépite y a été vue et que les hôtels de Cactus Junction sont à nouveau pris d'assaut. Ce matin, l'or vaut la même chose qu'hier et qu'il vaudra demain. Dans les nouvelles du jour, il faut surtout noter une résurgence des plantigrades dans les journaux. Les experts en marché qui baissent sont tous de retour de vacances pour nous expliquer pourquoi, comment et combien de temps ça va baisser. Personne ne leur demandera pourquoi ils sont faux depuis 30 ans, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on est là pour faire le buzz et rien d'autre. Tenez, par exemple, moi, je suis payé uniquement au nombre de likes sur mes chroniques investir.ch. Sans likes, je suis plus rien. Et c'est pareil pour les bears. On s'en fout de ce qu'ils pensent. L'important, c'est d'avoir des mecs qui savent quoi faire quand ça baisse. On aimerait bien qu'ils sachent aussi faire autre chose que des théories, mais s'ils mettaient leurs convictions en pratique, ça ferait bien longtemps qu'ils n'auraient plus une thune pour investir. Mais bon, c'est un grand classique, les lendemains d'une grosse claque comme hier, on aime avoir des gens qui viennent à la télé et qui ont l'air d'avoir été au courant de la baisse depuis 2 semaines. Il y a quelque chose de rassurant à les voir sur deux à la télé, alors qu'il y a une semaine, ils étaient dans leur salle de bain en train d'envisager le suicide en se disant « Mais putain, quand c'est que ça arrête de monter ce truc ?» On reparle un tout petit peu aussi du Covid, puisque AstraZeneca a annoncé une pause de sécurité dans la recherche du vaccin. Alors apparemment, c'est classique dans ce genre de recherche, mais le marché n'aime pas trop ça. On notera aussi que dans cette ambiance de fin du monde technologique, tout est en train de partir avec l'eau du bain, puisque Moderna est en baisse de plus de 40% depuis qu'ils étaient à ça de trouver un vaccin contre le Covid, ou la recette du sirop grenadine, on ne sait plus trop. Avoir le parcours du titre, ça devait être le sirop grenadine. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyste le plus bullish envisage un prix à 134$, que la moyenne est à 90$ et que le plus pessimiste parle d'un peu plus de 40$ de valorisation. Encore 20% de baisse et on y est. En tous les cas, en observant la claque que se sont prises les boîtes qui étaient censées sauver le monde et nous débarrasser des masques une fois pour toutes, on se dit que la liberté de parler et de manger un sandwich dans la rue, c'est pas pour demain. Pour ce qui est des chiffres du jour, il y aura les chiffres du chômage en Suisse et le monde entier aura les yeux braqués sur Berne puisqu'il y en a point comme nous. Il y aura aussi les jolts aux États-Unis et la vision à court terme de l'industrie du pétrole selon l'EIA. Les inventaires pétroliers ne seront pas publiés aujourd'hui à cause du décalage, à cause du Labor Day. Et il y aura encore les chiffres trimestriels. Encore quelques chiffres trimestriels aujourd'hui, mais rien dans le home office ou dans le biking at home, autrement dit que des trucs pas intéressants. En ce qui concerne les trimestriels, il est à noter quand même qu'hier soir tard, Slack a publié ses chiffres du trimestre et le titre perdait 20% after close. Je me doute que ça ne devait pas être top. C'est marrant quand même, hein, comme il y a 10 jours, c'était 20% par 20% à la hausse et en moins de 3 séances, paf, c'est l'inverse. Et après, on dit que femme varie, je dirais plutôt que l'investisseur varie aussi vite que l'homme politique tourne la veste. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,10%, pas 10%, hein, 0,10%. Et ça sent pas encore le rebond type Superman qui remonte le temps tellement il vole vite. Mais en même temps, si vous me dites que le marché a repris 5% demain soir, plus rien ne me surprendrait. Demain matin, il n'y aura pas de chronique et pas de publication matinale pour cause de jeune voix et tarte au pruneau. Par contre, il y aura le Morning Bull live en vidéo qui sera sorti ce matin, tout à l'heure, et demain matin également, parce qu'il n'y a pas de jeune voix. Et puis, passez une belle journée et à demain, en vidéo ou à vendredi par écrit et en audio. À noter pour ceux qui auraient un doute, la vidéo est complémentaire à la chronique, hein, juste qu'on se le dise. Passez une très bonne journée et à demain.